Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, en ce 23e dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux d'accueillir les guides et scouts d'Europe du district de la Mayenne pour leur entrée. C'est un moment où nous nous préparons à vivre une année riche d'événements, de projets, de rencontres, d'amitiés et surtout de disponibilité pour le Seigneur et pour les autres. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur, que lui-même, aujourd'hui, lorsque vous vous présentez devant lui, puisse agréer toutes vos demandes. Et pour ce faire, frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à vous.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de lettre de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi est juste. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne corrompras pas. Les commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux.
Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, est-ce que vous allez bien ce matin? Ah, ça c'est bien. Il fait bon, il fait un peu chaud, mais tout va bien. Et dans notre cœur, je suppose que cette chaleur, elle est présente, non pas pour nous accabler, mais pour fortifier en nous l'amour de Dieu. Les lectures de ce jour nous invitent à considérer deux réalités. La première, c'est notre identité. Et la deuxième, c'est le plus grand cadeau que Dieu nous donne. Ça va? Est-ce que ça va? Oui, donc vous avez deux réalités. Notre identité, et puis le plus grand cadeau que Dieu dépose dans notre cœur. Si j'ai dit ça, j'ai tout dit. Je vais maintenant faire des développements autour de ces deux réalités. Donc, pour ceux qui sont dormis dehors à la belle étoile, qui sont un peu fatigués, vous pouvez faire la sieste maintenant. Voilà. Et pour les autres, peut-être vous allez essayer d'écouter. Il va falloir me suivre, hein, parce que par moment, ça va très vite. Hein. Mais comme vous avez retenu les deux réalités, pas de souci. Mais si vous ne retenez pas la suite, c'est pas grave. La première lecture que nous avons entendue, c'est le livre d'Ézéchiel. Pour comprendre ces paroles que le Seigneur dit à Ézéchiel, il faut d'abord connaître le personnage. Et cela va nous ramener à notre identité. Ézéchiel est un fils d'Israël. C'est pas nouveau ce que je dis. Il a une particularité. En fait, il est fils de prêtre, sacrificateur, prêtre. Ah, donc normalement, on est prêtre de père en fils selon l'Ancien Testament. C'est dans le clan, c'est dans la famille. Or, voilà que le Seigneur, dans sa 30e année, le Seigneur parle à Ézéchiel. Ézéchiel avait 30 ans à ce moment-là. Et il va comme orienter la destinée d'Ézéchiel. Il va faire de Ézéchiel un prophète. Un prophète pour qui? Pourquoi? Un prophète de Dieu pour le peuple d'Israël. Or, le peuple d'Israël considère Dieu comme un père, comme un roi. Donc, en Ézéchiel, nous avons trois réalités qui définissent notre identité. Les plus petits, peut-être que vous ne le savez pas, c'est sûr que vous ne savez pas, parce que si vous me dites que vous le saviez, j'aurais dit, le jour de votre baptême, vous devez être super intelligent à ce moment-là. Le jour de notre baptême, parce qu'on est bébé, le prêtre qui nous a baptisés, à un moment donné, il prend le secret. Oui. Et puis, il nous dit, Jésus-Christ t'a libéré du péché, et il dit d'autres développements. Et puis, à un moment donné, il dit, maintenant tu vas participer à la dignité du Christ, qui est comme prêtre,
prophète et roi. Ça, c'est notre identité en tant que chrétien. On est prêtre, on est prophète et on est roi. Si on est prêtre, on est prophète et on est roi, c'est bien de savoir ce que c'est. Le prêtre, sa fonction, sa mission principale, c'est d'offrir à Dieu. Offrir à Dieu des sacrifices. Et nous, à chaque fois que nous participons à la messe, nous offrons à Dieu le Père, Jésus-Christ qui est son Fils. Donc notre dimension de prêtre, ce serait d'offrir notre vie. Et d'offrir aussi toutes les réalités du monde, puisque nous habitons un monde qui a été créé par Dieu. C'est un devoir pour nous de prier pour nous et de prier pour le monde entier. La deuxième réalité qui est la réalité prophétique, ben, le prophète, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle de Dieu. Ben, pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu, il faut connaître cette bonne nouvelle. Cela nous invite peut-être à nous poser la question, comment est-ce que je me mets à l'écoute de la parole de Dieu? On pourrait dire, avant c'était difficile parce que avoir une Bible, c'était un peu compliqué. Maintenant, à 2 euros, vous avez une Bible. Donc personne ne peut s'excuser pour dire, moi, voilà. Et maintenant, si les smartphones, je ne sais pas quoi là, vous avez des applications, la parole de Dieu. Donc personne ne peut dire, eh bien moi je ne connais pas la parole de Dieu, c'est pas vrai. On peut la trouver. Et c'est comme ça qu'on apprend à connaître Dieu. Et si on connaît Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? À la fois on va annoncer cette bonne nouvelle, mais à la fois cette parole de Dieu nous permettra de mettre en lumière ce qui est péché et ce qui est injuste. Et Ézéchiel, le Seigneur lui dit, tu écoutes mes paroles. Si tu ne dis pas au peuple les paroles que j'ai mises dans ton cœur, la responsabilité, c'est toi. Mais si tu leur dis la parole que je mets dans ton cœur et ils n'écoutent pas cette parole, la responsabilité, c'est eux. Voilà la dimension prophétique à laquelle nous sommes appelés. Alors, pour nous aujourd'hui, vers qui? À qui nous avons une certaine responsabilité? C'est une question qu'on peut se poser. On ne va pas dire, nous qui sommes ici en Mayenne, à la Côtellerie, on a la responsabilité du monde entier. C'est possible. Mais on peut avoir une responsabilité beaucoup plus proche de nous. Vers qui nous devons aller témoigner? Ça, c'est la deuxième question qu'on peut se poser. Et qui est-ce que nous devons avertir? Ça peut être un camarade du scoutisme. Ça peut être à l'école, les camarades de l'école, ça peut être nos collègues dans le lieu où nous travaillons, ça peut être aussi les membres de notre famille. N'allons pas chercher ailleurs. Commençons là, maintenant, autour de nous, dans notre cercle de vie. Ça va? Est-ce que ça va? Voilà. Et nous avons la dimension royale, la qualité propre du chrétien, c'est de construire le royaume de Dieu. Comment construire ce royaume de Dieu? C'est la deuxième lecture qui nous y invite. Et elle nous dit, n'ayez aucune dette. La seule dette que vous avez, c'est celle de l'amour. Après avoir décliné notre identité, nous découvrons le cadeau que Dieu nous donne, l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Il n'existe pas d'usine, on fabrique l'amour. Celui qui en connaît, qui lève la main. Ah, il n'y a personne. Donc, ça n'existe pas. C'est un don qu'on reçoit de Dieu. Mais ce don qu'on reçoit de Dieu va prendre des couleurs différentes en nous, sur notre réalité terrestre. Alors, je vais dire des choses un tout petit peu compliquées, mais je vais essayer d'être un peu simple. Nous, en français, quand on dit « j'aime », on se dit « quoi ? Qui ?» Parce que tant qu'on ne met pas la suite, « j'aime », ça ne veut rien dire. Or, Quand on regarde dans le sens grec où Paul écrivait, le mot amour a quatre formes. C'est comme quatre piliers qui sont importants pour l'équilibre d'un être humain. La première forme de l'amour, c'est l'amour éros. C'est-à-dire cet amour du plaisir, du confort. Dans la lettre de Saint Paul, il nous dit de n'avoir aucune autre dette à partir de l'amour. C'est, il ne veut pas dire qu'il ne faut pas contracter de dette, c'est pas ça. Parce que on a des factures à payer, de l'électricité, du gaz, de je ne sais pas quoi. Et puis on a bien d'autres choses à payer parce que c'est des petites dettes du quotidien. Mais ce qu'il nous dit, parce que c'est pour notre confort, c'est pour notre bien-être, ce qu'il nous dit, payons à temps. Ne reculons pas en disant je vais payer, je vais payer, je vais payer, je vais payer, et puis on ne paye jamais. Il nous dit aussi, si je décide de contracter une dette, il faudrait que ce soit pour quelque chose d'important et d'essentiel. Les choses non essentielles, il ne faudrait pas contracter des dettes pour ça. Si j'aime la dernière montre ou la dernière chaussure, le dernier vêtement qui vient de paraître, c'est important, mais ce n'est pas essentiel. Je ne veux pas contracter une dette pour m'acheter un beau vêtement, concrètement. Il nous dit, si je contracte une dette, il faudrait que je sois sûr de pouvoir rembourser. Si je ne suis pas sûr de pouvoir rembourser la dette, ce n'est pas la peine. Et puis il nous dit aussi, par moment on prend des crédits et puis il y a des intérêts. Et si je prends le crédit et puis l'intérêt est énorme et que je suis sûr que ces intérêts, je ne vais pas pouvoir les payer, c'est pas la peine de prendre le crédit. C'est ce que tu avais dit. Donc il dit cette première partie. Et puis après il dit la deuxième partie qui est l'amour que je dirais philéo. C'est cet amour qu'on a en amitié. Les parents aiment les enfants aiment les parents s'aiment entre eux, on aime les autres. Et puis, parle d'un autre amour, ce qu'on appelle strego, c'est-à-dire c'est l'amour de la patrie, l'amour du groupe dans lequel on appartient. On est membre du scout, on aime le scoutisme. C'est un amour qui est assez particulier, parce que tout le monde n'aime pas le scoutisme. Il faut savoir ça aussi. Voilà. On aime notre pays, le voisin d'à côté, il aime aussi son pays, au même titre que nous, nous aimons notre pays. Et c'est important, ça structure la personne. Et puis le quatrième amour auquel nous invite, c'est ce qu'on appelle l'amour agapéo. C'est cet amour qui surpasse tout. Ce n'est pas un amour d'émotion, de sentiment, mais c'est un amour qui dépasse les réalités terrestres, qui fait qu'on peut, on aime même celui avec qui on n'est pas tout à fait en accord, avec celui avec qui on a moins d'affinité et c'est un tout petit peu compliqué, je l'aime en Jésus. Est-ce que ça va? Voilà. Voilà un peu les quatre amours que Paul nous demande d'essayer de vivre dans notre quotidien, dans un équilibre. Et cet amour, agapéo, Dieu a commencé le premier à nous aimer ainsi. Parce que l'Écriture nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc il y a une dimension de sacrifice derrière. Et on nous dit, Jésus a tellement aimé son Église qu'il s'est livré pour elle. Donc c'est une invitation à nous chrétiens d'aimer de telle manière que nous dépassions les amours, je dirais, un peu égoïstes, par intérêt, par affinité. On va prendre un amour qui, par moment, peut nous demander des sacrifices. Et c'est ce que Jésus nous explique dans l'Évangile. Et il prend un exemple très concret. Il nous dit ceci. Lorsque ton frère a commis un péché contre toi, c'est pas la peine d'aller colporter, et puis ça va devenir un feu qui va enflammer toute la forêt. Ça sert à rien. Tu trouves ton frère ou ta sœur, tu lui dis, Franchement, je t'aime, mais ce que tu as fait ne me plaît pas. Ou ce que tu as fait m'a blessé. Si le frère et la sœur qui est en face de toi, et il est vraiment chrétien, il peut reconnaître son tort. S'il reconnaît son tort, pardonne-lui. Quand tu le pardonnes, ça ne suffit pas. Prenez le temps de prier ensemble, puisque lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de lui, la finale de cet évangile. Et puis il nous dit, si vous vous pardonnez, c'est que vous liez votre amitié encore plus forte. Donc ça sera lié dans le ciel. Mais si ça ne marche pas très bien, ben, ça sera délié. Et ce qui est séparé sur la terre sera séparé aussi dans le ciel. Bref, il nous dit, si jamais ça ne marche pas, va trouver deux ou trois personnes à discuter de l'affaire, trouver un moyen de vous entendre. Mais s'il ne veut pas t'écouter encore, va trouver l'église. S'il n'écoute pas l'église, il faudrait qu'il soit excommunié, c'est-à-dire qu'il sort de la communion de l'église. Attention. S'il sort de la communion de l'église et il se rend compte de son mal, et prend le temps de demander pardon, empresse-toi de lui pardonner et de le réintégrer dans la communion. Et c'est ça le sens de la prière qui nous est demandé de vivre. Et pour terminer, je voudrais vous partager un texte que j'ai lu, que j'ai trouvé assez étonnant. C'est un religieux polonais du 19e siècle qui parlait de commandements, surtout de l'amour de Dieu, en disant « L'amour de Dieu, le commandement de Dieu, est une malédiction pour le diable. L'amour, le commandement de Dieu, est une loi, une norme qui va juger celui qui pêche et qui ne veut pas reconnaître son péché. Et l'amour de Dieu est une bénédiction pour celui qui décide d'entrer dans l'amour de Dieu et de faire le pas pour pardonner, pour se réconcilier et pour manifester cette vie de Dieu. Mais demandons cette grâce pour chacun d'entre nous de demeurer dans la bénédiction de Dieu, dans l'amour de Dieu. Amen. Ça va? Voilà, je vois Marie.